Bonjour et bienvenue au balado officiel du Festival Regard. Je m'appelle Nicky Lamontagne, responsable des projets spéciaux au Festival, membre du comité de sélection et animateur de cette série de balados. Cette année, on vous propose 6 rencontres entre cinéastes qui viendront discuter de cinéma, de courts-métrages et des enjeux de société qu'elles explorent à travers leurs œuvres. On remercie Balado Boréal pour toute l'aide fournie dans l'élaboration et la réalisation de ce projet, ainsi que le Bureau du cinéma de Saguenay pour son soutien. Je vous souhaite une bonne écoute. Je m'entretiens ce matin avec Aziz Zoromba, réalisateur et scénariste du film Simo, qui a été nommé meilleur court-métrage canadien au Festival international du film de Toronto, le fameux TIFF. Il a aussi remporté le prix du public au Festival du Nouveau Cinéma, au Southwestern International Film Festival, en plus d'être présenté à Sundance, la Berlinale, un peu partout. Bonjour Aziz.
Bonjour.
On reçoit aussi Louis Molinier, réalisateur, scénariste du film Mamita, présentant première mondiale à Regard avant de réaliser ce premier film-là. Ben, tu as notamment signé le scénario du film Juste moi et toi, qui avait remporté un ours de cristal à la Berlinale en 2019. Bravo et bonjour.
Salut.
Et on a aussi Will Niava, co-réalisateur du film Élément, qui a fait sa grande première à Regard également. Tu avais aussi réalisé le film Zoo, qui a été présenté dans près d'une centaine de festivals et qui fait aujourd'hui partie de la prestigieuse collection Criterion. Donc, bonjour à toi aussi.
Hello.
Trois projets différents que vous avez, mais qui se recoupent à plein de niveaux, je pense. Pour mettre la table de la bonne façon, j'aimerais peut-être connaître un peu la genèse de vos projets respectifs. Louis,
oui.
Ton film Mamita qui a été tourné à Lima, au Pérou, puis il est inspiré, je crois, de tes souvenirs d'enfance.
Oui, un peu, là. J'ai fictionalisé un peu, puis ouais. j'ai romantisé un peu. Ben, c'est ça, c'était parti d'un moment que j'avais vécu quand je suis, je suis immigrant d'origine péruvienne. Je suis parti très petit quand je suis venu ici. En étant immigrant, j'avais toujours vu que mes parents gardaient super gros contact avec les gens qu'on a laissé derrière, en fait, avec ma famille qui est restée au Pérou. Puis, tu sais, je voyais qu'il y avait ce lien-là qui est un peu difficile à cerner des fois. Tu sais, t'as une peine derrière ça, mais en même temps, t'es content d'avoir accès à des meilleures dispositions dans ta vie, à un meilleur essor. Puis, justement, de voir que mes parents, en sortant de là, comme beaucoup de familles immigrantes, ben demeurer une certaine forme pourvoyeur, en fait, de laisser derrière, justement en étant économiquement plus nantis qu'eux, qui avaient tout le temps de l'argent qui était mis là. Puis, ben, il y a eu ce moment-là où je suis retourné, tout petit, mon premier retour là-bas, où je voyais mes parents, justement ma mère, qui m'a beaucoup inspiré, Mamita, qui participait justement au mariage d'une de mes cousines. Fait que là, ce moment-là m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup impacté, même si j'étais jeune, je ne savais pas comment le nommer ces affaires-là. Puis c'est ça, c'est ce bout-là, de ce moment-là du retour à la mère patrie, dont on parle un petit peu moins quand on nomme l'expérience immigrante. T'sais, on parle tout le temps d'adaptation à un nouveau pays, mais t'sais, ce petit moment-là qui existe, parce que je l'ai partagé à beaucoup de personnes autour de moi qui sont d'origine immigrante, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose là, il y avait un terreau là, puis justement, j'ai décidé de le faire, j'avais voulu le faire à Lima pour ça, pour des questions bien personnelles, parce que c'était d'une certaine manière un peu ma réalité. Puis j'avais, au cours de mes voyages, je m'étais promené, puis j'avais visité ce bidonville là, fait que j'ai juste comme mergé les deux affaires, puis je me suis dit, ben là, il y a un film, puis c'est exactement là où est-ce qu'il se situe, là, tu sais. Voilà.
Intéressant. Will, de ton côté, avec Zoo, tu t'attaquais à la brutalité policière au Québec et en Occident, un peu partout. Tu as décidé pour Élément de te rapprocher un peu plus de tes origines, de retourner en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a motivé ce projet-là?
Écoutez, après le festival de Clermont-Ferrand, après la première de Zoo au festival de Clermont-Ferrand, j'ai rencontré des producteurs qui m'ont fait revenir chez moi pour réaliser une série qui s'appelle MTV Sugar. Et pendant la série, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi, sur mon pays, et je voulais m'exprimer vraiment sans filtre et juste faire un film chez moi. J'avais jamais fait de film chez moi, alors c'était un privilège de revenir. Alors après la série, on avait l'équipement pendant 4 jours. Et on s'est dit, écoutez les gars, on a fait une série, il y a plein de restrictions, on n'arrive pas à vraiment dire tout ce qu'on veut, faisons quelque chose. Alors on a rassemblé toute une équipe et tout un cast, casting sauvage. On a trouvé des personnes dans la rue, un peu partout, et c'est juste la volonté qui a fait ce film. On a juste fait sans scénario. L'histoire s'est écrite au fur et à mesure qu'on avançait dans les journées de tournage. Et vraiment, ça a été magnifique. Un film magique qui est venu d'une grande profondeur de détresse dans le pays. Ça parle des jeunes qui n'ont pas vraiment de job. Il n'y a pas d'opportunité pour eux. Alors, ils vont dans les marchés pour vendre des t-shirts, des choses qu'ils ont volées, des choses qu'ils ont trouvées. Et vraiment, après un moment, tu réalises à quel point tu n'as pas d'aide. Et il n'y a aucun choix, des fois, à part partir dans le côté un peu dark. Mm-hmm. Et en Afrique, on a ce côté spirituel, ce côté où on repart avant que les chrétiens n'arrivent, avant que les musulmans n'arrivent. On avait nos propres coutumes, et on appelle ça aujourd'hui la sorcellerie, mais vraiment ça fait partie de leur culture. Il y a toujours un sacrifice, il y a toujours quelque chose. Et ouais, on cherchait à exprimer cette petite image de notre culture.
Tu disais à l'ouverture aussi que le film avait été fait avec comme 200 $ canadiens.
Ouais, ouais. Fait que le tournage a été réalisé avec 200 $ canadiens.
C'est fou. Hein?
La moitié du budget est... Ben, certes, on avait cet équipement qui venait de la série.
Ouais.
Donc ça, c'était gratuit. On peut compter. Mais 200 $, 100 $ est parti peut-être à la police pour nous protéger.
Okay. Cette caméra.
Puis le reste, vraiment, c'est parti dans toutes les petites choses. Et comme je disais, la volonté, c'est la monaie la plus valorisée. Mm-hmm. Parce que tout le monde veut faire quelque chose, tout le monde veut sortir de cette détresse. Et l'art nous donne cette opportunité de s'exprimer. Et quand je leur ai dit qu'on était sélectionnés à l'un des plus grands festivals de court-métrage dans le monde entier, ils étaient... Vraiment, c'était genre... J'ai des vidéos qui sont en train de célébrer comme c'est la Coupe du Monde.
Ouais.
Et pour nous, c'est ça. Pour nous, c'est une grosse Coupe du Monde. Juste être ici à Saguenay, juste être ici à Regard, avec des cinéastes qui nous inspirent tous. Mm-hmm. C'est un rêve. C'est un rêve pour moi. Surtout après Zoo... Il y a 3 ans, mm-hmm. c'était l'un des derniers films à être visionné ici avant que quelqu'un annonce la pandémie. Ouais. Fait que ça fait plaisir d'être ici encore.
Génial, ben on est content de te recevoir encore une fois. Aziz, c'était ton deuxième court-métrage également. Qu'est-ce qui a inspiré l'histoire de Simo?
Pour Simo, en fait, c'était une idée de vouloir explorer un peu mon expérience au secondaire, comme étant un Égyptien québécois. Je suis ici depuis que j'ai 5 ans. Mm-hmm. Mais je pense que le secondaire, c'était une période qui m'a vraiment beaucoup marqué. Parce que, en fait, pour tout le monde, l'âge de l'adolescence, mm-hmm. on se trouve, on se cherche. Mais surtout quand tu viens d'une différente culture, c'est un autre layer, tu vois, d'essayer de savoir qui on est, comment on se représente, comment on se voit. Et comment les autres nous perçoivent aussi, parce que des fois, il y a un clash mm-hmm. entre comment tu t'identifies comme personne et comment les autres t'identifient. Et puis, c'est ça, donc, dès que cette idée est venue, j'ai pas pu échapper au côté dark des stéréotypes qui me suivaient toute ma vie, et, qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. Et puis, j'ai essayé de voir comment on peut se réapproprier justement ces stéréotypes d'une certaine manière. Et de faire une histoire de famille, d'une certaine manière, c'est un hommage à mes parents. Dans le film, c'est sûr que c'est un père monoparental, mais moi, en vraie vie, j'ai mis deux parents. Mm-hmm. Mais il reste que je voulais faire un film qui célèbre justement cette, la résilience immigrante. Et que malgré tout ces regards extérieurs ou ces jugements extérieurs, ben, la famille, c'est tout ce qu'on a en fait dans la vie. Mm-hmm. Et puis c'est ça, donc ça c'est un peu le début. Et puis tranquillement, j'ai réalisé que je voulais faire un film d'ado parce que c'est un film sur deux adolescents, sur mon expérience personnelle. Et puis quand j'ai commencé à écrire, je trouvais que c'est un peu trop sérieux, c'est un peu trop dark comme thème. Mais comment est-ce que je peux l'approprier et faire un film que moi j'aurais aimé regarder à 15 ans ou à 16 ans. Et donc au moment que j'ai réalisé ça, que je voulais faire un film d'ado, c'était rendu vraiment un gros plaisir d'écrire parce que ouais. I was having fun with it. C'était vraiment le fun de faire des scènes inspirées par des jeux vidéo. Mes influences étaient plus des jeux vidéo que d'autres films, par exemple. Puis de caster des vrais jeunes égyptiens. Et ouais, toute cette expérience-là, c'est venu avec. Donc, mais oui, aussi juste le fait de retourner en fiction parce que moi, j'ai mon premier cours après l'école, c'était un documentaire.
Ouais.
Et j'avais trop hâte de retourner à la fiction. Et. En fait, j'ai pas planifié que ça soit un gros court-métrage quand même, mais tranquillement, les choses se sont mises en place et donc, j'ai été vraiment chanceux, j'ai des collaborateurs incroyables. Et... jusqu'à maintenant, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait.
Ouais, parce que Simo, ça va bien, ça fonctionne très, très bien, mais avec mérite aussi, je pense.
Merci.
Le film est vraiment excellent, puis tu parlais de... qui parle aux jeunes aussi, ça se reflète dans la sélection de regards parce que le film est en compétition officielle, mais il est aussi présenté à des groupes de jeunes du secondaire. Fait que ça, c'est intéressant aussi.
Ouais, c'est incroyable. On l'a montré à mon école secondaire. On est retourné avec le film il y a deux semaines. C'était une coïncidence, mais en fait, je vais faire un petit genre de mentorat pour les jeunes en scénarisation. Mm-hmm. Puis ils m'ont demandé de montrer le film et puis je suis retourné à l'école secondaire. C'était très étrange. C'était weird de retourner y voir ces corridors et j'ai même reconnu ma surveillante qui était encore
très bizarre. C'est fou.
C'était incroyable. Ouais. Puis on m'a appelé monsieur puis ça m'a choqué.
Là, ça t'a sorti de tes souvenirs à ce moment-là. Il y a un élément qui réunit vos trois œuvres, je trouve, c'est le sacrifice, d'une certaine façon. Le sacrifice que certains parents doivent faire pour espérer que leurs enfants aient une meilleure vie. C'est un sentiment qui est très universel, mais je pense qu'en tant que personne issue de l'immigration, c'est encore plus vrai. Là. Dans Simo, il y a les enfants qui connaissent peu leur pays, un peu, qui ont un choc avec leur père, qui tente de connecter avec eux puis qui a de la difficulté un peu à le faire. Dans Mamita, il y a la mère qui revient, mais on dirait que les enfants ne comprennent pas nécessairement pourquoi elle est partie. Puis dans Élément, ben, c'est un groupe de jeunes qui est jeunes adultes qui est prêt à sacrifier, qui sont prêts à sacrifier leur vie, leur confort un peu. Ça vient d'où un peu ce sentiment-là? On s'en doute, là, mais si vous pouvez en parler davantage.
Je parle de mon point de vue. Moi, je trouve que le sacrifice, c'est étrange, mais il y a comme une espèce de côté que genre, tout le monde connaît. T'sais, genre, tout le monde, c'est quitter son pays, ça vient clairement avec un sacrifice, laisser tout derrière. Je trouve que je remercie encore à chaque fois mes parents pour avoir fait le move puis de me donner une meilleure vie et tout. Ça, c'est de mon point de vue personnel, mais ça vient aussi avec des espèces de... Je sais pas si c'est peut-être culturel. J'ai pas encore fait le tour exactement. J'ai pas réussi à gratter toute l'affaire. Fait qu'il y aura d'autres films par rapport à ça qui s'en viennent, mais ça fait aussi partie d'une espèce de non-dit, tu sais, dans le sens où, oui, c'est là, on le sent. Mais c'est même une fierté, d'une certaine manière, de dire, genre, ben, tu sais, j'ai fait ça pour vous, puis on le reconnaît, puis tout. Mais il y a, tu sais, ça vient aussi avec des layers de une certaine forme de souffrance, une certaine forme de laisser sa famille derrière, ça doit être un nest move quand même, genre, puis tout ça, c'est dit, mais ça vient avec une certaine... Tu sais, ce qu'on voit, c'est la fierté derrière ça. On dirait que tout le côté, pour de ma part, là, pour Mamita, toute cette espèce de rupture intérieure, ces sacrifices-là sont souvent non-dits, en fait. Puis j'avais justement... Moi, ça me fascine, le non-dit. Je trouve que cinématographiquement parlant, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Puis c'est ça, j'avais juste envie de mettre un petit peu le focus là-dessus, sur tout ce que ça implique émotionnellement, tu sais, de laisser le monde derrière. Des choses qu'on dit qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à dire, ou que si on le dit, on tomberait un peu dans la victimisation à ce moment-là, mais justement, je pense que pour une question de fierté, ces gens-là le gardent un peu intérieurement, puis de mettre un petit peu la démo puis la caméra sur ces affaires-là, je trouve que ça, il y a quelque chose de quand même assez puissant dans cinématographiquement parlant, artistiquement parlant. Là.
Dans mon film, moi, le sacrifice, c'est plutôt quelque chose, ils n'ont vraiment pas de choix, genre, ils sont backed up. En fait, c'est ça le sacrifice, c'est, ils sont backed up, genre, tout est contre eux. Donc, ils doivent créer une situation, ils doivent créer quelque chose. Et même les choix qu'ils font, genre de... Ben, je sais pas si je peux donner des spoilers. Genre,
ben oui, genre... les gens ont vu le film.
Ils ont vu le film, là, genre de partir à voler des choses dans des voitures, des batteries, des... Vraiment, ça, c'est un gros sacrifice, parce que je sais que si tu t'es arrêté, tu vas en prison, tu vois. Mais maintenant, de sacrifier ta propre vie encore, juste pour avoir une bonne vie pour ta famille, ou... c'est vraiment ça, mais quand ça vient à ta vie, vraiment, c'est l'ultime sacrifice.
Alors, ben oui.
Tu es prêt à donner ta vie pour avoir une meilleure vie pour les autres. Ça, c'est... Ouais, en tout cas, c'est tough, mais il y a toujours des leçons, en fait.
Ouais.
Faut sensibiliser les gens et leur montrer que there's a way out. There's a way out, even quand ça ressemble à pas, ça ressemble à rien, ça ressemble à vraiment la galère. Genre, il y a un moyen de s'en sortir. On sait pas c'est lequel pour l'instant,
ouais.
Mais il y a des options.
Ouais, ben oui.
Ouais. Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir. Ouais. De ce sacrifice-là aussi, ben, vient le fait de chercher sa place un peu dans le monde, parce que tu déracines finalement pour aller ailleurs. Fait qu'il y a un peu ça aussi dans ces mots, dans ce que tu racontais aussi tout à l'heure.
Exactement. Et puis les sacrifices, comme immigrant, en fait, on grandit avec... sous cette idée que nos parents ont sacrifié tout pour nous, donc c'est une certaine responsabilité. C'est un poids sur toi quand t'es jeune.
C'est lourd
à porter toute ta vie, parce que tu sais que en fait, t'espères que ces sacrifices-là vont valoir à quelque chose et qu'ils vont pouvoir être fiers de toi. Donc ça reste dans ton subconscient toute ta vie, je pense, quand tu grandis. Donc c'est sûr qu'il faut que ça se reflète un peu dans mes films. Puis dans Simon en particulier, c'est aussi le sacrifice du grand frère. Et la responsabilité du grand frère envers son petit frère. C'est sûr que le sacrifice du père aussi, devant la famille et tout, c'est une question de se trouver. Et tu vois, la question de l'intégration aussi, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant, parce que j'ai grandi dans une famille qu'on peut dire ne sont pas intégrées comme certaines s'imaginent c'est quoi l'intégration. En fait, qu'est-ce que les gens veulent dire par intégration? Mes parents, ils parlent pas, on n'a jamais parlé ensemble en une autre langue sauf l'arabe. Donc c'était vraiment, quand tu étais jeune, il y a une vie à la maison, et puis tu vis dans une autre planète quand tu es dans la maison. C'est deux mondes tellement différents. Et puis c'est ça, donc tu trouves en secondaire surtout, tu find a way to avoir une double vie dans une manière, double vie. Mais oui, c'est ça, pour moi, en fait, c'est le cœur du film, c'est Simon qui essaye de rester proche de sa culture. Et combattre ce sentiment de honte où les autres, ils te perçoivent d'une certaine manière pour « fit in ». Tu te sens obligé d'agir d'une certaine manière, ou d'écouter certaines musiques, ou de parler d'une certaine, avec un certain accent. Il y a beaucoup de layers. Mais en fait, c'est ça. Donc, c'est la réalisation que c'est correct. Tu peux être aussi fier de tes origines, et aussi être québécois. Notre identité, elle est complète. comme on peut avoir ces deux cultures mixées en nous, et on est pas moins un ou l'autre.
Ouais. C'est pas mutuellement exclusif là. Exact. On porte les mêmes choses, puis
c'est ça, mais
on a juste plusieurs chapeaux, puis ça.
Mais souvent on veut qu'on soit mutuellement exclusif. Es-tu québécois ou pas québécois?
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire d'être québécois?
Exact, en fait, ça veut dire ça, être québécois. Donc, c'est une grosse question.
Qu'est-ce que ça veut dire, être québécois? Ouais.
Mais de nos jours, ça a changé. Ça fait partie de l'évolution. Le Québec a évolué depuis l'immigration. Ben, l'immigration a commencé quand les Québécois sont arrivés ici. C'était pas les premiers Québécois.
Non. Nous aussi, on est immigrants.
Non, mais justement, mais en fait, tout le pays, tout le continent, pays, on est par extension, mais c'est fondé sur l'immigration.
Exact.
Puis ça continue, puis ça va continuer, parce qu'on le sait bien, sans immigration, on va pas se rendre loin.
Pour moi, c'est quelque chose qui me rattrape un peu avec le temps aussi, de se dire, genre, quand j'étais jeune, j'ai voulu fit in, fait que j'avais une partie de moi, j'ai fait comme, j'ai besoin d'être un petit Québécois, j'ai besoin de rentrer dans un certain moule. Puis je pense que c'est nécessaire aussi pour une question de survie, puis une question d'être reconnu dans un groupe, puis de fit in dans un groupe. Mais justement, je pense qu'avec le temps, avec comme le fait de devenir adulte, puis aussi se poser des questions comme créateur, puis comme artiste, on revisite un petit peu. Moi, c'est quelque chose qui m'a rattrapé. Tu sais, j'étais sorti de l'école de cinéma, puis j'avais pas nécessairement envie de raconter des histoires personnelles ou des histoires liées à l'immigration, mais finalement, tu te revires de bord, tu te regardes un peu, puis c'est ça que tu as raconté, en fait. Ouais. C'est ça qui te différencie, en fait, de ça, puis c'est ça qui te définit, puis je trouve ça le fun aussi, ça pourrait toujours être mieux, je pourrais toujours en avoir plus, mais c'est d'avoir ces voix-là un peu, qui sont des voix québécoises, là, parce que c'est pas des... On vient pas d'une autre planète non plus, là, on a vécu... parmi ces gens-là, mais une autre réalité, tu sais, genre dans notre intimité, chez nous, chez toi, tu sais, ça parlait arabe, chez nous, ça parlait espagnol, puis c'était pas la même chose, tu sais, fait que d'avoir un peu cet accès-là aussi à des vies un peu différentes, à des vies un peu autres, mais qui ont leur place dans la définition de c'est quoi le big picture d'être québécois. Ouais,
c'est un bon segue pour parler un peu de la représentation à l'écran, surtout au Québec.
Ouais.
Parce que moi, quand j'étais jeune, une grosse partie, pour moi, c'est un, on se voyait pas à l'écran.
Ouais.
Et de deux, quand on se voyait à l'écran, on était des terroristes ou des... des gens que tu veux pas vraiment t'associer avec.
C'est ça, les 20 dernières années ont été rough.
Ça a été très, très rough pour to say the least.
To say the least.
Donc, il n'y a aucune, ça n'y a pas de un genre d'exemple positif quand tu es jeune à voir l'écran. Ça donne, pour certains jeunes aussi, ça leur donne pas une raison de vouloir, quote en quote, s'intégrer comme on parlait, parce que si on ne se voit pas à l'écran, c'est comme si on n'existait pas, ou ils ne veulent pas qu'on existe, ou ils ne nous veulent pas parmi eux. C'est toutes des questions qui y a en tête, surtout quand tu es adolescent.
Ben oui, c'est ça.
Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on raconte nos propres histoires. Ouais. Parce que c'est ça, souvent, on raconte nos histoires pour nous, puis on le fait tout croche. Puis je trouve que ça, des fois, ça nuit plus que ça, qu'autre chose. Parce que ça nous banalise un peu, que ça nous utilise un peu comme un bait.
Oui, absolument.
Après, ça a contre-effet.
Exact. Et souvent, c'est pas bien recherché. Donc, tu te vois à l'écran, mais tu vois que c'est tellement pas la réalité. Ouais. Les accents sont tout croche. Ouais. Le casting est mal fait.
C'est ça. Puis je comprends pas pourquoi, des fois, on dirait qu'il y a certains Québécois, Québécoises qui le comprennent pas, alors que... quand on fait une représentation du Québec ailleurs, qui n'est pas faite par
nous,
là, on est comme, hey, ça n'a pas de bon sens, c'est pas ça le Québec, mais on le fait avec les autres cultures, sans se poser de questions.
Exact. C'est comme si je prends des Français puis des Belges, puis ils sont tous Québécois, mais ils parlent avec leur accent. Hein. Mais on va faire semblant que c'est des Québécois, puis personne ne va remarquer. C'est correct.
Ouais. Non, c'est ça.
C'est correct, ouais, c'est ça. c'est frustrant.
C'est le fun d'avoir accès à vos histoires aussi, parce que dans Mamita, je pense, tu amènes vraiment bien le nid familial très chaleureux, est très bien rendu à l'écran, tu sais, puis c'est le cas aussi dans vos films. On sent qu'on a accès à quelque chose de vrai, vraiment dans vos films respectifs.
Mais c'est aussi ça que... Je pense que quand on voit les populations migrantes, c'est souvent en contact avec le Québécois. Qu'est-ce que ça implique?
Tandis
que
comme,
hey, notre intimité existe, guys. Là, comme, genre, voici à quoi ça ressemble. Puis comme, tu sais, c'est ça. Puis c'est, mettons dans ma mita, ben oui, ils jouent aux cartes, ils boivent des bières comme pas mal tout le monde. C'est puis, mais c'est juste que ça se passe en espagnol. Puis il y a peut-être une dynamique culturellement un peu différente. Mais tu sais, d'avoir accès à cette intimité-là, je trouve ça super important de montrer que, ben oui, c'est ces choses-là auxquelles la question immigrante, c'est malheureusement vu comme un bloc, puis c'est correct, ça, ben, c'est pas correct, mais ça vient d'une certaine forme d'ignorance, puis je trouve que donner accès, c'est un peu une responsabilité que moi je prends aussi, c'est de dire, ben, on veut montrer aussi notre intimité, parce qu'elle n'est peut-être pas vue, puis c'est un peu normal, tu te balades pas avec ton intimité à tous les jours pour la montrer. Ben, je pense que le but de créer des films, c'est aussi, c'est de montrer ça, tu sais.
Ouais. Moi, je tripais parce que j'avais des femmes à côté de moi, des vieilles femmes pendant ma projection, de peut-être 60 ans, 70, qui, genre, ben, m'ont vu sur le stage, donc elles savaient que j'avais un film.
Ouais.
Puis après, quand elles regardaient le film, ça a commencé à bâiller un peu avant. Puis après, quand le film a commencé, genre, juste entendre leur voix, les « oh », les « ah ». Oh, et je sentais qu'elles découvraient quelque chose pour la première fois après 70 ans de leur vie.
Ouais, ouais.
Donc moi, fou, en tant que Québécois aujourd'hui, je leur montre un univers d'où je viens, d'où je suis comment je suis arrivé ici, une réalité de ma culture.
Oui, parce que toutes les aspects spirituels aussi, c'est pas quelque chose auquel on est habitué.
Exactement, exactement. Ça ouvre un autre univers. Et ça montre à quel point, genre, on est expansif, genre, en tant que personne qui habite sur cette terre aujourd'hui. Genre, on est pas juste en train de... Ben, il y a mille et une choses à voir sur nous tous. Notre identité est tellement pleine et vaste. Donc, genre, juste de voir ces dames-là, genre, m'attraper... Il y en a deux qui m'attrapaient à un moment quand ils sortent du cercueil. Là,
ouais.
Ils ont tous eu peur un peu, genre... Et de voir ça, moi, mon cœur, mais c'est réchauffé à 1000%, là, j'étais genre, oh my god. Oh, ça fait plaisir.
Non, mais moi, je peux vraiment relate à ça, parce que dans mon film, surtout la fin de mon film.
Oui.
Quand la musique.
Le rap part.
Le rap part, puis des fois, je vois dans l'audience les gens qui bougent leur tête un peu.
Ouais. Ah oui, c'est un banger.
C'est vraiment drôle.
Justement, les dames à côté de moi bougeaient leur tête. Donc, le père, il a comme les deux commencent à bouger leur tête un peu, mais le père, il commence un peu après. Puis les dames, ils ont commencé à bouger leur tête avec le père. Tout mon row, ils étaient comme ça, genre.
Pour moi, ça, c'est un win.
C'est ben
un
oui,
gros c'est, win. C'est un gros win.
C'est ça aussi. Puis le personnage, il gagne. C'est ça.
Ouais. Oui. Puis juste l'aspect aussi, tu sais, tout le film est sous-titré, évidemment, pour qu'on puisse suivre le récit. Mais à la fin, quand il y a le rap, c'est ta langue maternelle. Puis.
Ah, ça, c'est un conversation starter. Moi,
c'est vrai?
Mais oui. Parce que dans certains festivals, j'ai des dans les Q&A. Comme en Allemagne, par exemple, il y avait un monsieur qui était un peu passif-agressif parce qu'il
me demandait
pourquoi c'est pas sous-titré la chanson. Puis moi, mais parce que les dialogues de la chanson, c'est pas ça le statement du film. C'est l'acte de rapper dans sa langue. Et le fait que tu comprends pas, ça fait partie du point, justement. Et puis, il était comme, OK, mais qu'est-ce qu'il dit? Il a juste pas lâché la question.
Oh,
et so awkward. Je vais pas traduire la chanson en live sur le stage, mec.
Non, c'est ça.
Mais c'est un peu ça. C'est la peur de ne pas savoir.
Oh, ils veulent tout savoir.
Ils veulent tout savoir. La peur, est-ce que s'il est en train de nous vendre, il est en train de nous insulter.
Je pense si, dans ce cas-là, en Allemagne, mais pour un public québécois, les chances. Déjà, là. Le film n'est pas sous-titré, les chansons ne sont pas sous-titrées. Est-ce que tu écoutes vraiment les paroles? Non, c'est partie de l'accompagnement. Oui, il a une importance en tant que telle, mais je ne sais pas, moi, je n'écoute pas toutes les paroles qui sont mises dans les films. Puis c'est laisser porter par le fait qu'il y ait une chanson. T'sais, mettons dans ma mita, j'ai décidé de mettre une chanson. Il y a une berceuse qui chantait à un moment donné, qui chantait en quechua. Je me suis juste pas posé la question. C'est juste une langue autochtone qui existe puis qui a toujours existé au Pérou. Je trouvais ça beau de faire un clin d'œil à ça. C'est ça, c'est un clin d'œil. C'est un layer qu'on rajoute au film. C'est un choix esthétique aussi de savoir après ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Moi-même, je le sais pas. Puis c'est correct de même. C'est ça. le fait de chanter, ça fait partie d'un tout qui est pas nécessairement d'où on cherche pas une raison d'être, mais c'est juste là parce que ça fait aussi partie de nos vies.
Moi, c'est la beauté. En fait, pour moi, c'est tellement beau. J'avais jamais vu ça auparavant. Moi, j'habitais au Ghana ou en Côte d'Ivoire, tu vois. Genre, tout le monde se ressemble, tu vois. Mais je suis parti dans une école internationale. C'était pas la même chose quand je suis arrivé ici, de voir mille et une cultures se rassembler dans un pot, dans une sauce. Ouais. Et la sauce, c'était piquante.
C'est incroyable.
Oh, c'est tellement beau.
Moi, je pourrais pas vivre quelque part où tout le monde se ressemble.
Pareil.
Quand je retourne au Ghana ou quelque chose comme ça, c'est drôle de voir. Je me dis, waouh, mais attends, on vit bien au Québec, là. On vit bien parce que, on est exposé à tellement de cultures. Tu peux pas haïr quelque chose que tu ne connais pas, tu peux juste la découvrir.
Oui, c'est vrai.
Et bon, les autres, ils la découvrent et puis ils l'approprient.
ouais. C'est un autre sujet.
Il y a une beauté dans ça. Il y a une beauté dans ça et je pense que mon prochain film, Kaziz, sera un producteur. Ouais, je vais en parler. Je pense que c'est intéressant. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé, mes premiers jours. Je comprenais rien. Je parlais bien français, là, mais je comprenais absolument rien. Et c'était weird de voir des Noirs parler avec un accent québécois. C'était un trip, man. Genre, quand on était avec nos amis, blancs, noirs asiatiques. Et puis, les autres, les blancs partaient. Et puis, le noir reste. Je dis, OK, mais parle normalement. Là, on est entre nous. Il dit, hey, c'est comme ça que moi, je parle, moi. Je dis, oh, man, OK.
Oh, snap.
Et puis après, c'est entré dans moi. Le Québec, il t'accroche, t'attrape.
Ah, oui.
Lâche pas, c'est beau, là. Là, aujourd'hui, après 10 ans, je suis comme ça. Puis je retourne chez nous en Côte d'Ivoire, je parle comme ça. Il dit, hey, toi, tu viens d'où, toi?
Les papas, ils ne comprennent plus.
Ils ne comprennent plus.
C'est fou. On a parlé de la réception du public qui est quand même bonne. J'ai le goût d'aller un peu sur le sujet de la couverture médiatique parce que vous êtes trois gars qui ont eu du succès avec vos films. Aziz, quand ton film a été sélectionné à Sundance, on est tombé sur des articles de certains médias québécois qui parlaient des autres projets de réalisateurs comme Xavier Dolan, Alec Pronovo qui étaient sélectionnés à Sundance, mais ton film était omis. De ça. Bon, les articles ont fait membre honorable à la fin, puis on finit par le rajouter, mais reste que ce sentiment-là, cette sortie-là, le fait que tu aies voulu en parler, ça vient d'une frustration qui est réelle.
Oui, c'est une frustration qui dure depuis longtemps. C'était pas juste un cas isolé, je pense, comme certains ont peut-être pu croire.
T'étais pas juste fru.
Non, c'était pas genre, ah non, je mérite d'être... c'est arrivé à des amis, c'est arrivé à d'autres projets que j'avais travaillé dessus. C'est juste une question de... En fait, tout ce qu'on veut, c'est d'être traité de la même manière. Traité de la même manière. Puis que mon film soit considéré québécois quand il y a du succès. C'est sûr que mon film a eu une très bonne début de parcours. On a gagné à Toronto, il n'y avait aucune couverture médiatique. Après, on a gagné au FNC, il n'y avait aucune couverture médiatique. Après, on est sélectionné à Sundance. Puis, qu'est-ce qui était drôle, c'est que quand on a reçu la sélection par email, moi j'étais en Égypte, j'ai appelé ma productrice Rosalie. Puis, on célébrait et tout, mais je lui dis, attends de voir quand ils vont annoncer ça. Au Québec, ils ne vont pas me mentionner. Je lui dis ça un mois à l'avance. Et puis, quand la sélection a été annoncée, il y a deux articles qui sont sortis pilés. Elle les a vus la veille, elle ne m'a pas envoyé parce qu'elle ne voulait pas que je sois triste. Elle m'a juste pas envoyé, mais. Le lendemain, j'ai dû aller voir, puis j'ai vu que dans les deux articles, ils ne mentionnaient pas du tout, comme si je n'existais pas. Puis, tu vois, on parle de deux projets, là, québécois qui étaient à Sundance. Il n'y a pas genre huit, puis il y en a deux. Puis quand on parle de juste un des deux, c'est difficile. Il y a un choix. Des fois, c'est des erreurs, des fois, c'est un oubli, mais à un moment donné, c'est pas à chaque fois un oubli. C'est pas normal que... Que mon film soit oublié autant de fois. Parce que je le sais, mais ça, c'est difficile à prouver. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler, parce que j'ai pas envie d'avoir l'air de quelqu'un qui se plaigne pour rien. Mais je le sais que si moi, j'étais un réalisateur québécois de souche blanc, puis mon film aurait fait le même parcours, mm-hmm. ça aurait été vraiment différent.
Ouais, ouais.
Même c'est
si
sûr.
Tu l'aurais filmé en Égypte, que tu étais
un Québécois blanc. Ah oui, qui fait un film en Afrique.
Ouais,
you know?
En Afrique sans Québécois.
Exact.
Tous.
C'est sûr.
Tu aurais mentionné quand même. Exact. Mais là, c'est un film au Québec qui parle de la vie de...
Québécois, des jeunes Québécois. Tu vois, exact, exact. Mais on ne considère pas comme ça. Donc, honnêtement, c'est sorti d'une frustration. J'ai senti le besoin de dire quelque chose. J'ai fait un post Facebook.
Ouais.
Et puis là, je me sens bien. Là, c'est une question aussi d'une... On dirait que j'ai sorti quelque chose dans mon cœur et puis là, c'est plus d'entrer mes mains.
Non, c'est ça, exact.
Je me préoccupe plus de ce problème-là. Je pense que j'ai dit ce que je devais dire. Puis il y a beaucoup de monde qui ont répondu, qui pouvaient relate. Parce que je pense qu'il y a un plus gros problème médiatique en général au Québec, surtout au cinéma, au court-métrage, où on ne porte pas attention aux cinéastes comme je pense qu'ils méritent. Mm-hmm. Parce qu'on fait briller la culture québécoise à l'international, je pense qu'on... On mérite qu'on parle de nous un peu. Mm-hmm, mm-hmm. Mais c'est sûr que quand il y a un problème qui touche tout le monde dans une société occidentale, ben, il y a des fortes chances que ça touche des communautés encore plus. Mm-hmm. C'est ça la règle. C'est le rule of thumb.
puis je pense que, justement, je veux pas être le woke de service non plus, mais je pense que comme on a besoin de pousser ces voies-là parce que, justement, mettons, je prends moi mon parcours, c'est d'être une personne issue de l'immigration, de se définir comme artiste, mm-hmm. c'est peut-être plus difficile pour nous parce que, je sais pas, justement, on n'avait pas cette reconnaissance, on s'identifiait pas par rapport à ça. Il y en avait pas mille, les artistes qui regardait des films auxquels on ne reconnaissait pas, qui racontaient notre réalité, fait qu'on a dû se monter un peu notre monde par nous-mêmes. Mm-hmm. Puis justement, tu sais, d'avoir peut-être une tape dans le dos ou un encouragement parce que c'est ça qu'on veut, là. Justement, je pense pas que c'est une mauvaise intention de tasser de ces gens-là, mais peut-être qu'au contraire, on profiterait, je veux pas une plus grosse vitrine, mais comme je veux la même vitrine, mais justement d'avoir cet encouragement-là, moi je sais que ça me ferait du bien, je sais que ça ferait du bien à beaucoup parce que justement, ben, souvent, des artistes d'immigration, ben, c'est des late bloomers parce qu'ils n'ont pas eu le même réseau, ils n'ont pas eu les mêmes affaires, ils n'ont pas eu des parents qui étaient artistes nécessairement. Mm-hmm. Puis tant mieux pour ceux qui l'ont, qui ont tous ces privilèges-là. Ouais. Mais c'est peut-être plus difficile. Fait que de voir que quand il y a du talent qui ressort un peu, peut-être les encourager, je ne sais pas, peut-être plus en tant que tel, mais je pense qu'on gagnerait à
c'est important que plus, même. Ouais. C'est important à un moment que plus, parce que c'était la même chose.
Ouais. Avant que ça,
de l'autre côté.
Avant que ça stabilise. Ouais, éventuellement, ça va stabiliser, mais c'est sûr qu'au début, il faut pousser.
Exact. Ouais, il faut une balance, parce que si tu vas sur Netflix, tu vois que des films, tu vois, d'une certaine manière, après un moment, tu dois genre donner plus d'autres films pour que on rattrape un peu ce qu'on a raté.
Exactement.
Tu vois, il y a plein d'histoires qu'on n'a pas pu raconter.
Qu'on re-raconte ce qu'on a raconté à notre place.
Exactement.
Qu'on ait la bonne perspective.
Ouais.
Exact.
Moi, je me rappelle, ton film, ce qui s'est passé avec ton film, ça m'a rappelé les Oscars quand Moonlight avait gagné. Mais ils ont dit que c'est La La Land qui a gagné. Mmh. C'est-à-dire, genre, même quand on gagne, on perd.
Il faut qu'il y ait...
You know? Genre,
c'est... Il faut qu'il y ait
fuck up.
On peut jamais voir notre maman.
Non, de gloire. Non, pas folie. On doit, genre, te dire après, ah, ben, c'était lui qui avait gagné. Bon, c'était lui qui était sélectionné aussi, mais ouais, et pas québécois. Hein? Mais moi, ça m'a rappelé aussi quand j'ai sorti Zou.
Oui, c'était ça ma question.
Ouais, parce que je suis parti à plusieurs... distributeur, je vais pas les mentionner, mais pour chercher genre de l'aide, genre booster mon film, il y en a qui m'ont dit que mon film représente pas le Québec, mon film représente pas vraiment les réalités de ce qui se passe ici.
Okay. C'est eux qui savent c'est quoi les réalités.
Ouais, c'est eux, ils le savent, ils savent, ils savent ce qui se passe dans la vie des Noirs ici.
Non, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent voir. Exactement. De nous, c'est ça un problème. Exactement. C'est ça qui se passe depuis vraiment longtemps, c'est que c'est tout le temps leur version de comment ils pensent qu'on est.
Ouais.
Souvent, c'est ça, des amis qui parlent de... Ouais. Même dans les institutions financières, des fois, t'as des commentaires où ils te disent littéralement « Non, ces personnes-là devraient agir comme ça. »
Ouais.
And it's like, how do you know?
Like, on m'a dit que
c'est déjà, t'as mis dans un appart, dans Côte des Neiges, puis je vais te montrer comment ça se passe.
On m'a dit que c'est exagéré, mon film, que c'était exagéré. Exagéré.
C'est fou.
À la fin de mon film, je mets une vidéo de exactement ce qui se passe dans mon
film.
Pour
vrai.
Mais pour vrai.
C'est ça.
Comment tu peux me dire que c'est exagéré?
Hein?
Et 4 mois plus tard, George Floyd est mort. Puis 2 semaines plus tard après ça, on me rappelle.
Ah!
Allô, ça. Will, comment ça va?
La réalité a rattrapé la fiction.
Exactement. Comment ça va? J'espère que ça va bien avec ton film. T'as-tu besoin d'aide?
Ah, that's
Je sais pas si je peux swear ici.
Mais... that's
fucked up. Fuck off. Mais c'était vraiment low. Mais de voir ça, moi, ça m'a... ça m'a juste confirmé genre des choses que je veux pas voir. Et je le dis aujourd'hui parce que moi, je suis là pour le changement. Je veux pas dire aux gens genre... ouais, c'est qui, c'est lui, c'est eux, c'est eux qui ont fait ça. Genre. Je suis juste là pour qu'ils nous entendent, qu'ils sachent qu'on est là, qu'on existe, qu'on a des réalités. C'est sûr que ouais, quand on parle de notre peine, il y a beaucoup de guilt, il y a beaucoup de... tu vois?
C'est
rempli de guilt. Je pense qu'ils veulent nous entendre. Il y a juste une espèce de barrière vraiment étrange qu'il faut clairement casser, mais comme je pense que tout le monde gagnerait à juste ouvrir ces barrières-là puis faire comme...
C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Je pense qu'il y a du progrès. Il ne faut pas aussi nier le progrès qui se passe en ce moment.
Il y a plein pour elle. Moi, je me sens genre tellement chanceux d'être ici en ce moment.
Mais oui.
Genre alive, genre aujourd'hui, 2023, parce que je sais que... ah, ils ont
tu sais quand on dit « Oh, j'aurais aimé ça vivre des années 60. »
Hey, moi, je ne peux jamais dire ça.
Nope.
Quel privilège.
Pas moi. I'm good.
Hey, je pense que c'est un privilège de, mettons, juste écrire un scénario en espagnol, en arabe. Moi, je ne me pose plus la question. Je vais le déposer en français parce que les gens de la SEDEC vont le lire en français. Juste en écrivant, genre, tout le film va se passer en espagnol. Tu sais... La question se pose plus, mais j'imagine qu'elle se posait peut-être il y a comme 5-10 ans. Puis je veux pas non plus être un token, parce qu'il y a aussi ce problème-là éventuel, mais en même temps, si je suis un token et ça me permet de faire un film, je vais le prendre. Mais pour en faire de quoi, de briser un peu ces barrières-là, puis de raconter ces histoires-là qui se passent dans nos langues, parce que c'est comme ça que ça se passe, puis pas faker un accent français.
Mais c'est tellement important, l'authenticité, justement.
Ouais,
c'est ça, parce que moi, c'est pas pour Simon, mais en fait, moi, quand j'étais jeune, en fait, une réalité que d'autres amis à moi aussi peuvent relate. Moi, quand j'étais jeune, je me identifiais comme égyptien. Ça, c'était mon identité. Égyptien, primaire. That's how we saw each other. Ma famille, ça a tout le temps été comme ça. Arrivé au secondaire, soudainement, ça s'est transformé à « t'es un arabe ». Puis quand j'étais jeune, je comprenais pas. C'est comme pourquoi on pense que... Parce qu'en fait, en Égypte, quand il y a du monde du pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, on les appelle les Arabes. Eux, c'est les Arabes. Donc, ça vient du fait que nous, on se voit pas vraiment comme des Arabes. On est des Égyptiens. On parle arabe, mais ça vient d'une longue histoire de colonisation à travers des siècles. Mais donc, c'est pour ça aussi que c'était important pour moi d'avoir un film avec des personnes égyptiennes qui parlent égyptien. C'est des vrais égyptiens en réalité aussi, parce que je veux un peu briser cette image de les Arabes, c'est une chose.
Ben oui, c'est
ça. On est un groupe, on y met tout ensemble, mais on est tellement différents. Chaque pays a sa culture, son dialecte, sa manière de voir la vie. Mais souvent, on est mis dans une boîte où on est pareil. Mais un Saoudien puis un Algérien, c'est pas la même chose, les amis.
C'est ça.
Ils se comprennent même pas quasiment en parlant arabe.
Le monde s'obstine ici entre le lac Saint-Jean puis le Saguenay.
Exactement.
Fait que
c'est tellement différent. Donc, c'est important aussi de justement pouvoir montrer chaque pays puis son identité en étant sa propre physical thing.
Ben oui, absolument.
Parce que c'est ça souvent au cinéma.
Et ça amène des gros défis au casting tout le temps. Parce qu'il n'y en a pas, mais...
Je pense que c'est important de commencer pour que justement, dans les années qui s'en viennent...
Je ne sais pas comment vous avez fait pour Simon, mais juste le fait d'aller chercher des non-acteurs puis de travailler avec eux, finalement, ça donne des super beaux rendus. On découvre plein de talents, mais justement, si ça peut encourager overall du monde de la diversité, c'est ça?
Exact, c'est ça.
C'est ça qu'ils se voient, en fait.
Quand on ne se voit pas à l'écran, quand j'étais jeune, il n'y a personne qui va dire « Ah, je veux être un acteur au Québec quand j'étais jeune.
»
Parce que tu ne te vois pas. Donc, quand tu ne te vois pas, c'est automatiquement, c'est impossible.
Ouais.
Moi, j'ai hâte qu'on fasse des séries, là, ici, nous autres.
Ouais.
Des séries québécoises, tu vois, mais pas juste un noir ou un arabe dans le mix.
Non, là, on est dans cette étape-là, un peu de la transition. Ouais. On exactement. Le sent, là, on ouvre la télé, puis on voit les trois.
Que son personnage ne soit pas justement juste sur le fait qu'il est noir ou qu'il est arabe. Voilà.
C'est le token.
Ben, je pense qu'on va être appelé à faire ça éventuellement, parce que, tu sais, genre, justement, on a ce qu'on a vu comme un désavantage, en fait, de d'être issu d'une population immigrante ou de pas être défini comme Québécois, ben, sorry guys, mais on comprend vos codes aussi, là, fait qu'on serait capable de faire des séries complètement québécoises. Et en plus, on peut rajouter le layer de comme de ce qu'on a. Je pense que ce qu'on a perçu comme un désavantage, en fait, peut nous avantager éventuellement parce qu'on connaît justement ces deux réalités. On est comme dans une place où justement ces deux réalités-là qui ne se parlent pas des fois, ben nous, on peut justement les
faire communiquer.
C'est ça.
À quel point c'est beau ça, man, de voir. Genre, imagine une série, genre, tout le monde est genre d'un immigrant, il parle avec cet accent-là. Ouais. Puis genre, de temps en temps, tu vois le white token qui rentre. Ah, mais ça, imagine à quel point ce serait drôle, ça. Yes, flip it. Juste pour voir
et ça existe aussi, là, tu vas te promener dans... J'ai enseigné dans une école à Montréal-Nord, puis comme c'était juste des blagues, puis comme genre... Quand la fille blanche, elle arrive, ben, elle adopte les codes blancs, elle commence à parler en slang, puis c'est aussi ça la réalité. Là.
C'est ça la réalité.
Quelque chose de beau, là, elle n'est pas moins québécoise, là, juste comme sa québéquitude est là. C'est
Absolument. Ouais, vraiment. Moi, j'adore quand je vois, j'ai vu des jeunes à Montréal-Nord, hein, white, qui parlent exactement. Si tu fermes tes yeux, tu penses qu'il est noir. Wow, moi, c'est un trip, c'est exactement que j'ai vu ça. Je ferme tes yeux, je dis yo, wait up, what's up, nigga? Je dis wow!
Oh wow!
Non, mais moi, ça m'a pas fait genre bizarre. Il a dit nigga, et je dis ok, yeah, ok. What's up? Genre, c'était bizarre parce que genre.
Il avait vraiment l'accent.
Il avait. He meant it in such a loving way. Mais je m'attendais pas à ça.
Ouais, je crois.
C'était bizarre et je veux montrer ça dans mon film.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est important de montrer ça parce que ça a donné un feeling, genre, qui va résonner différemment pour beaucoup de personnes racisées. Tu sais, je comprends pas ce mot-là.
Non. Mais...
non, les termes qu'on nous donne sont très drôles.
Yo, c'est bizarre. Moi, j'ai jamais dit ça. Genre,
il y a quand même un petit moment de comme.
Ouais, je suis genre.
C'est lequel le mot
c'est lequel le mot c'est. Ça m'a donné un feeling weird. Je me sentais bien et bizarre et weird. Mm-hmm. Encore weird quand un Asiatique, genre, je pense qu'il était chinois, il parlait avec cet accent. Il a dit, yo, le mec, il arrive, man. Puis j'étais comme, wow, c'est dope. C'est bizarre. C'est pourquoi je me sens pas mal. C'est, genre, je sais pas. Il y a des choses, il y a des questions à relever et je suis... une personne, il y a d'autres individus qui vont réagir différemment à ça.
Façons,
donc ne me prenez pas en tant que genre l'emblème. Ah, on peut le dire maintenant.
Oh, non, vraiment pas.
On ne dit pas ce mot, s'il vous plaît. Merci à tout prix de ne pas dire ce mot.
Mettez un contexte. Là,
c'est ça. Will Niaba a dit ton contexte.
We got the red, the green flag.
We got the black flag.
En tout cas, moi, je ne l'ai pas dit.
En terminant, les gars, on parlait, vous rêviez de séries. Puis je vous le souhaite, là, vraiment, qu'il y ait des projets comme ça se développent. Mais qu'est-ce qui s'en vient dans l'immédiat pour vous? Will, Aziz, vous parliez d'un projet que vous développiez ensemble en ce moment.
Ouais. Moi, je prépare, je pense, mon dernier cours avant mon long.
OK.
Je me disais que je devais faire 3 cours pour avoir cette connaissance du milieu, d'être sur un plateau de tournage et... et là, on prépare un cours qui est très proche de moi, très proche de mon expérience. C'est le premier jour d'un immigrant qui arrive à Montréal, qui est complètement déboussolé. Il ne sait pas où il habite, il a perdu son adresse et il cherche à juste aller chez lui, se reposer après un long voyage. Puis il se retrouve avec... une bande de Québécois, un black, un autochtone, un blanc, qui vont l'emmener dans un voyage infernal.
OK.
Ouais. Donc, c'est un peu ça l'histoire, très mais intriguant. Je pense que je pense qu'il y a, il y a de quoi vraiment rire, pleurer et avoir du fun, genre, dans ce film. Et c'est un privilège d'avoir mon frère ici, faire partir de l'équipe de production qui va nous supporter. Juste apprendre de lui et juste jaser de nos idées, de nos expériences. Man, je suis aux anges et j'ai hâte. On croise les doigts pour la SODEC et CAC et tout.
si vous écoutez.
Toi, Aziz,
pas le choix de nous aider là.
Ouais, pas le choix, c'est trop tard maintenant.
Moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça a été quand même un 6 mois très intense pour moi. Mais c'est ça, donc je travaille un peu avec Will, j'ai sur son projet et je développe un long métrage. Dans tout début, le développement de long métrage.
Ouais.
Et puis c'est ça, donc si je peux, avant de tourner un long, faire un autre court métrage, ça serait bien parce que c'est un apprentissage, on a tellement à apprendre. Et je pense que c'est ça, il ne faut pas non plus penser que c'est une course. Puis,
non, c'est ça.
Faire le premier long le plus rapidement possible, c'est pas vraiment ça le point.
Parce que c'est long, de toute façon.
C'est long, de toute façon, aussi, mais il y a tellement de choses à apprendre aussi. Tu peux un peu te casser la gueule, comme on dit, avec un court-métrage, c'est correct un peu, mais de se casser la gueule avec un premier long, je pense que c'est plus lourd à porter après.
C'est lourd à porter.
Ouais. C'est clair.
C'est ton image.
Louis?
Mamita, c'était ma première réalisation comme telle. T'sais, j'ai juste sauté parce que, en fait, c'est cool parce que les filles de Colonel ont fait comme, tu l'as scénarisé, fuck off, va le faire parce que, genre, parce qu'il y avait juste moi qui pouvais le faire aussi.
C'est comme, fuck off, va le faire.
C'est comme ça qu'on m'encourage. Là, c'est ça, j'avais déjà commencé à écrire du long et tout, puis comme j'ai dit tantôt, c'est long, du long, puis ça fait une couple d'années que c'est un peu dans les tiroirs, puis une fois de temps en temps, on leur sort pour essayer d'avancer la chose. Puis c'est ça, vu que j'ai pris le goût un peu à la réalisation, j'ai décidé de comme prendre mon long, puis voir, tu sais, un peu voir s'il y avait un cours là-dedans, parce que comme ça me tentait de le faire, c'est juste que comme... Toutes les pièces sont pas... Fait que j'ai pris un peu une partie de mon long, puis j'ai fait un spin-off, puis j'ai vu que comme là-dedans, il y avait peut-être un cours en soi, là, qui pourrait vivre de par lui-même, qui n'était pas nécessairement une partie du truc. Puis après ça, j'ai commencé... Fait que ça, mon prochain cours, c'est un peu ça. Je sais pas si je t'ai volé l'idée, là, mais l'idée de ces premiers moments, en fait, où tu arrives au Québec, puis... moi, je suis arrivé au Québec au début des années 90, puis on parlait beaucoup de la question nationale.
Ouais, c'est clair.
Le référendum s'en venait, puis j'étais comme...
Le vote ethnique.
Je peux être Canadien, faut-tu que je sois Québécois? What's up with me?
Puis tu sais, ça complique les choses.
Tu sais, l'espèce de rêve... l'espèce de rêve, l'American Dream, en fait, finalement, là, quand beaucoup de populations arrivent, puis ils pensent que ça va être le bout de la marde en arrivant, puis que ça va être Noël à tous les jours... pour se rendre compte que non, il fait fret, puis que comme...
On t'attend avec un gros sac de cash.
Puis que, tu sais, justement, cette espèce de désenchantement, en fait, existe aussi, puis tu sais, de voir comment on peut se builder une idée, surtout dans l'esprit d'un enfant. J'avais envie de prendre le petit enfant, parce qu'un enfant, c'est naïf, puis on peut... Il y a une beauté là-dedans de comme assumer cette naïveté de l'enfant, puis la pousser, genre, vraiment un extrême, vraiment le fun. Puis de voir, justement, quand tu frappes un mur, tu sais, de ah ben shit, il fait froid, puis je suis différent, puis il y a plein de monde différent autour de moi, mais je comprends pas, tu sais. Je pensais arriver au Québec, puis ah, je suis dans une classe d'accueil, puis personne parle français. What's up?
Ça, c'est une expérience. Ouais.
La classe d'accueil en soi.
La classe d'accueil quand t'es jeune, puis tu te sens comme un extraterrestre. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, puis on partait de l'Égypte, puis on allait à Montréal, puis quand j'étais jeune, à chaque année, à chaque été, on retournait. Donc, quand j'étais jeune, je pensais qu'on vivait toujours en Égypte. Moi, j'allais à Montréal pour l'école, puis je retournais.
OK.
Puis c'est ça, je sais pas pourquoi je l'imagine même, mais pour vrai, it felt like que c'était pas un avion, c'était une fusée, puis on quittait la planète Terre pour aller dans une autre planète, parce que c'était tellement de pays différents.
Ouais.
C'est comme deux extrêmes opposés, d'une certaine manière. On part de la neige, puis on va dans un petit plus de désert, plus de joie. Le climat, les gens, la culture, tout est tellement différent que quand t'es jeune, c'est vraiment désorientant.
C'est clair.
Puis je pense qu'à quelque part, puis c'est souvent cette partie-là de notre vie, on passe à travers, mais on a un peu une espèce de... de nécessité de survivre. Fait que genre, tu sais, on la met comme de côté parce que oui, il y a des certains traumas, puis je veux pas dire genre c'est immense, ça m'a déchiré, mm-hmm. je suis pas une victime de quoi que ce soit, mais comme on la tasse un peu de côté parce que justement, on est devenu Québécois, on a pris le français, tu sais, il y a comme une pression que t'as besoin de ça. Puis à un moment donné, une fois de temps en temps, juste en revenir puis faire comme « Oh shit, c'est vrai que comme... » Tu sais, moi, des fois, ça me remet dans des souvenirs puis il y a plein d'affaires, en fait, que, comme, qu'on a nommées. Puis ben, c'est ça notre job, à quelque part, là, tu sais, d'aller gratter un peu là-dedans puis de voir que...
Ah, les choses qu'on voulait pas voir un peu.
C'est ça. Mmh. Puis elles sont là, puis elles sont flagrantes, puis comme, elles sont drôles, elles sont touchantes, puis elles sont comme powerful, là, je trouve.
Mais on vous remercie de faire ce travail-là en tant que cinéaste, vraiment. Puis je vous souhaite une bonne chance avec vos projets de long métrage. Mais à Regard, on espère que vous allez encore faire du cours pendant quelques années pour pouvoir vous revoir.
Juste pour vous, anyways.
Oui.
Il faudrait continuer à faire du cours toute notre vie, je pense.
Ouais. Ouais. C'est un vraiment. Format.
C'est un beau, bel exercice pour. En fait, c'est un beau format en tant que tel.
C'est magnifique en tant que tel. Ouais. Là, j'ai entendu que le gouvernement a coupé le budget des subventions pour l'année prochaine.
Ah ouais.
Donc, il va falloir investir ça.
For
day. Ah
ouais. Bon. Ouais.
On va surveiller ça.
On remercie Papa Legault pour les coupes
budget. Dès qu'on dit OK, ben, on va donner de l'argent aux personnes racisées, ben, on va les couper un peu les budgets.
Oh. Oui, c'est ça. Maintenant qu'il y a des projets qui sont financés, exactement. Ah, là, non, ça marche.
Maintenant
plus.
Que c'est fait, c'est assez.
C'est assez, là, on a compris.
C'est ça. Merci, les gars.
Merci à toi.
Merci.
Merci beaucoup. Merci à Regard
pour Regard.
Cette belle opportunité, ce beau public.
Et... Ouais. Yes. Je tiens à remercier Mélissa Bouchard et toute l'équipe parce qu'ils m'ont fait venir ici, genre, à tout prix. Et vraiment, genre, je leur dois. Mais. Des hugs et du love et ouais.
Bonne fin de festival à vous trois.
Merci. Merci.
Regard le balado a été enregistré au Centre d'expérimentation musicale pendant la 27e édition du Festival Regard, le festival international du court-métrage au Saguenay qui s'est déroulé du 22 au 26 mars 2023. Les épisodes ont été produits et réalisés par la généreuse équipe de Balado Boréal et n'auraient pu exister sans le soutien du Bureau du cinéma de Saguenay qu'on remercie. Merci aussi à Charles-Maxime Lemay, à la prise de son et au montage. J'envoie également toute ma gratitude aux cinéastes qui ont accepté de venir partager ces moments avec moi. Entendre toutes vos histoires a été un réel plaisir. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à aller suivre la page du festival sur les médias sociaux pour ne rien manquer et être au courant de toutes nos activités. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt.
Une production Balado Boréal.